Donc c'est encore moi ce matin qui ai la grâce et la joie de vous apporter la parole de Dieu. Si vous vous souvenez un petit peu, la semaine dernière, on avait parlé de la foi et de l'incrédulité. C'était un choix crucial dans nos vies. Soit je choisis de croire à Dieu, soit je choisis d'être incrédule et de ne pas recevoir ce qu'il veut me donner. Ce matin, j'aimerais continuer un petit peu sur le domaine de la foi. Si on peut commencer le PowerPoint, merci Dominique. Ma foi face à l'injustice. Alors c'est un vaste domaine, l'injustice. L'injustice de nos jours, elle s'infiltre partout, elle prend mille formes. Elle peut être grande, petite ou invisible. Elle peut être collective ou personnelle. Toucher des peuples entiers, toucher une personne. En tout cas, l'injustice est une chose qui va toujours laisser des traces dans les cœurs. Et nous la voyons chaque jour dans l'actualité. Vous ouvrez les journaux, vous regardez la télé, l'injustice. Et puis nous-mêmes, nous aussi, chacun de nous a vécu ou vit des situations d'injustice. Dans nos familles, dans notre travail, parfois même dans l'Église, malheureusement, on peut vivre aussi l'injustice. Et l'injustice, c'est peut-être le premier sentiment, l'un des premiers sentiments que peut ressentir un enfant. Je pense que vous avez tous un souvenir d'une injustice dans votre enfance, quelqu'un qui vous a puni injustement. Vous avez été traité injustement par rapport à votre frère, à votre sœur. Et l'enfant, très rapidement, dès l'âge de 4-5 ans, il dit « c'est pas juste ». Hein, ça nous rappelle le petit Calimero, pour ceux qui connaissent, qui sont de ma génération, « c'est pas juste ». L'enfant, il va vite avoir ce mot dans sa bouche, « c'est pas juste ». J'ai une fille qui n'est pas là ce matin, je peux vous dire des « c'est pas juste », elle m'en a dit, très rapidement. Et c'est vrai qu'on a besoin, en fait, de justice. Et l'injustice, elle n'infecte pas seulement nos relations, mais elle peut faire naître en nous la colère. Elle peut faire naître en nous la volonté de vengeance. Elle peut faire naître en nous de la tristesse, le découragement, la dépression. Et jusqu'à ce qu'elle sème en nous quelque chose de grave. Si Dieu, une question qui va nous paraître légitime, si Dieu est juste, pourquoi l'injustice existe-t-elle? Et il y a beaucoup de gens, de personnes autour de nous, qui refusent Dieu avec ce prétexte et nous disent « Mais t'as vu dans le monde dans lequel on vit, si ton Dieu il est juste, alors pourquoi il y a tout ça qui se passe sur cette terre? Pourquoi il y a toute cette injustice? Pourquoi il y a tous ces malheurs? Pour toi, il y a toutes ces victimes innocentes ?» Et si vous avez déjà lu la Bible, vous avez pu constater que bien des personnes fidèles à Dieu, qui ont désiré marcher avec Dieu, ont vécu, elles aussi, l'injustice. Elles n'ont pas été épargnées. Et certains même ont manifesté ouvertement leur colère à Dieu face à ce qu'ils vivaient. Et on va prendre un exemple dans le psaume 73. Le psaume 73 qui a été écrit par Asaph, un chef de chorale qui a été nommé par le roi David, et qui était prêt d'abandonner la foi, d'abandonner Dieu en voyant la réussite des méchants. Psaume 73, versets 12 à 13. « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que ce monsieur-là, Asaph, il regarde les méchants autour de lui qui prospèrent. Et lui, qui a tout fait pour plaire à Dieu, il n'a pas la même réussite. Et il se dit, mais pourquoi le méchant réussit alors? Pourquoi il a le droit, lui et pas moi? Quelle injustice! On a aussi Job qui va aussi pousser son cri dans les afflictions qu'il va vivre. Il va vivre des choses très difficiles. Et il va dire cette même chose, pourquoi les méchants vivent-ils? Vieillissent-ils et même deviennent-ils puissants? On le voit dans le monde, il y a des gens qui nous paraissent avec une moralité très très limite et pourtant ils réussissent. La Bible, elle ne nie pas l'injustice, mais affirme que Dieu demeure juste. C'est pas parce qu'il y a de l'injustice dans ce monde que Dieu n'est pas juste. Ça, c'est quelque chose qu'il faut enlever de nos têtes, en fait. Dieu est juste, c'est une vérité fondamentale. C'est le socle de notre foi. Si on commence à douter de la justice de Dieu, on ne pourra pas avancer. Donc, la Bible a posé cette vérité fondamentale, Dieu est juste. Et c'est la première partie du message, juste que je voulais réaffirmer la justice de Dieu. Dieu est juste malgré nos injustices. Il y a tellement de versets qui parlent de la justice de Dieu, j'ai pris Deutéronome 32:4. Il est le rocher. Alors quand on dit Dieu est le rocher c'est celui qui demeure toujours le même. Il ne change pas, il n'y a pas de variation. Il est toujours là, toujours présent. Donc il est le rocher. Dieu est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Alors, pour comprendre un petit peu dans le monde dans lequel on vit, il faut se référer à la Genèse. La Genèse nous enseigne en fait que le mal est un intrus dans la création. Dieu n'a pas créé le monde tel que nous le connaissons, avec des sites d'actualité, avec que des horreurs qui se passent, avec que des injustices, avec que des victimes innocentes, des maladies, des guerres, des êtres humains égoïstes et avares, et des injustices. En fait, Dieu n'a pas créé comme ça le monde. Il n'a pas créé le monde comme ça à l'origine. La Bible nous dit que quand Dieu a créé le monde, tout était bon. Tout était parfaitement bon, tout était très bon. La mort même n'existait pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans nos cœurs on a soif de justice. Parce que à l'origine, on a été créé pour vivre des choses bonnes, des choses justes. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé initialement. C'est un monde corrompu, c'est un monde déchu. C'est un monde qui s'est privé en fait de la présence de Dieu en choisissant de croire à quelqu'un d'autre. C'est comme un fruit moisi, vous savez. Dans un fruit moisi, il y a des bonnes parties et il y a des mauvaises parties. Voilà ce que le monde est devenu. Et Genèse nous dit que chaque être humain aussi a été créé à l'image de Dieu. Donc chaque vie humaine est précieuse. Et cela, peu importe notre âge, peu importe nos origines, peu importe notre classe sociale, toute vie humaine est précieuse pour Dieu sur cette terre. Parce que chaque personne, tous ici, nous avons été créés à son image. Et chacun de vous, vous avez été désiré par Dieu. Avant que vous naissiez, Dieu vous désirait déjà. Dieu vous connaissait et il voulait votre existence sur cette terre. Donc, pour Dieu, la vie humaine est importante. Alors après, effectivement, l'image a été fortement froissée. Comme je l'ai dit, on a choisi de jeter Dieu. Et vous savez que le mal n'a pas été créé par Dieu. Le mal est simplement l'absence de Dieu. On a rejeté Dieu. On ne veut plus de Dieu dans nos sociétés. Et la nature, comme on dit, a horreur du vide. Il y a quelque chose d'autre qui s'installe à la place. Pour la justice, c'est pareil. On a rejeté la justice de Dieu. Donc, une justice inique vient s'installer. Donc, chacun est précieux pour Dieu, chacun de la valeur pour Dieu. Cela signifie que toute atteinte envers un être humain est une atteinte à Dieu lui-même. Quand on fait du mal à quelqu'un, on fait du mal à Dieu. Donc, l'injustice est une insulte contre Dieu. C'est une insulte. Chaque vie humaine est précieuse et l'injustice est une insulte contre Dieu. Ésaïe 10, 1 à 2 nous dit « Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple. » Pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. On voit que Dieu n'est pas impassible, il n'est pas sans compassion pour celui qui souffre sur cette terre. Et il dit, il prévient qu'il y aura un jugement. On va le voir. Alors, pour finir sur cette première partie, pourquoi Dieu permet encore l'injustice ? Vous saviez, si Dieu, demain, décide de tout arrêter, combien de monde dans ce pays serait sauvé ? Les statistiques nous disent 1% de personnes. 1%. 1% de personnes nées de nouveau en France qui ont donné leur vie à Christ, qui ont accepté d'être sa grâce, d'être sous sa grâce. Donc la première raison, c'est quoi ? C'est la patience divine de Dieu. Dieu retarde son jugement pour donner le temps à chacun de se repentir. Des fois, on a du mal à le comprendre. On se dit, mais non, mais arrête tout, Seigneur. Arrête ça. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa patience, il veut quoi ? Qu'un maximum de personnes soient sauvées. Il n'a pas donné sa vie, ce qu'il avait de plus précieux, pour que 1% de Français soient sauvés. 2 Pierre 3,9 nous dit, le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas, il a son temps, il sait, il juge, il est souverain. Mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Il veut que tous soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous viennent à sa grâce. Et la Bible nous dit aussi qu'il y aura un jugement final. Dieu promet qu'aucune injustice ne restera impunie. Acte 17, 31, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. C'est une certitude. Comme on dit, vous n'emporterez pas au paradis. Pour certaines personnes qui ont fait le mal et qui n'ont pas voulu se repentir, il y aura un jugement. Il y aura un jugement. La Bible nous dit, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Un jour, chacun de nous sera face à Dieu, en tête à tête. On sera nu devant lui. On ne pourra pas faire appel à un ami. On ne pourra pas se justifier en se défaussant sur les autres. Jésus nous scannera de haut en bas, il verra tout. Il verra tout. Il est dit que notre vie passera comme un film, hein, comme tout ce qu'on a fait dans notre vie. Et on sera face à lui. Donc préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Ecclésias 12, 14 nous dit, en effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Que ce soit bon ou mauvais. Dieu est impartial. Dieu est juste. L'injustice que nous voyons aujourd'hui est réelle, douloureuse, révoltante même. Mais elle ne remet pas en cause le caractère premier de Dieu. Il est juste. Il est juste. Il demeure juste. Alors on va avancer un petit peu dans ce domaine de l'injustice en prenant un texte dans les évangiles, un très court texte que vous avez peut-être déjà lu. C'est dans Luc 12, 13 à 15. On va le lire ensemble. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Amen. Alors, dans ce passage, Jésus, comme à son habitude, est au milieu de la foule. Il y a beaucoup de monde autour de lui, nous a dit, et il va enseigner. Il va enseigner sur la crainte de Dieu. Il va enseigner sur à lui être fidèle, à suivre Jésus. Il va dire également que le Saint-Esprit sera toujours là pour nous accompagner. Donc Jésus est en train de partager des choses profondes à une foule qui a soif. Au milieu de la foule, tout d'un coup, un homme prend la parole. Et pour demander à Jésus de lui faire justice, parce qu'il est en train de vivre une injustice. Car son frère ne veut pas lui donner la part qui lui revient. Vous savez, les affaires d'héritage, hein, malheureusement, ça a toujours causé des divisions. Je pense que vous en connaissez tous autour de vous, vous l'avez peut-être vécu. Du temps de Jésus, c'était pareil. Dès qu'il y a histoire d'argent, il y a division. Et pour information, simplement, la loi reçue par Moïse au sujet de l'héritage, elle disait quoi ? Elle disait que les frères, le frère aîné recevait la double part des autres frères. Mais en fait, tous les frères devaient recevoir une part. Seul l'aîné avait sa double part. Donc, on ne sait pas si cet homme était le fils aîné, mais en tout cas, il avait droit à une part de l'héritage, c'est certain. Et moi, j'ai été longtemps surpris, en fait, de l'attitude de Jésus-Christ dans ce passage. En fait, son refus me semblait bizarre, en fait. Il va lui dire, voilà, je ne suis pas là pour juger cette affaire. Pourtant, le voici en présence de deux frères, donc, dont l'un revendique sa part. On voit qu'il y a certainement une injustice vécue par cet homme. Et Jésus était le mieux placé pour juger, hein, bien mieux placé que les tribunaux humains. Et pourtant, Jésus refuse. Et de façon souveraine, il va dire « Qui m'a établi pour être votre juge et faire vos partages ?» Alors moi, ça m'a interpellé, je ne sais pas vous. Moi, je me dis, mais là, Jésus, il aurait eu l'occasion de montrer qu'il était juste. Il va faire justice, bam, oui, donne-lui sa part et c'est fini. Mais Jésus n'a pas fait ça. Cela peut sembler surprenant, mais en fait, son rôle n'était pas de régler les affaires civiles ou matérielles, d'après ce qu'il nous dit. Alors, pourquoi Jésus refuse-t-il d'intervenir dans cette affaire de justice, pour rendre justice ? La première explication qui peut paraître très spirituelle et qu'on peut avoir au premier regard, c'est dire « Oui, Jésus, il est venu pour nos âmes, il est venu pour le salut éternel. » En fait, les autres soucis humains, ça ne le concerne pas trop. Lui, il est venu pour cette mission de sauver nos âmes. Et le reste, bon, les hommes doivent s'en débrouiller. Comme je disais, c'est une explication qui semble très spirituelle et pourtant elle est fausse. Car elle présente Jésus et l'Évangile d'une façon très superficielle. Ce n'est pas la bonne explication. Vous savez, quand on lit un peu les Évangiles, on voit que Jésus il a placé au premier plan le pardon et le salut, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier sa compassion qui s'adresse à l'homme tout entier, dans toutes ses dimensions. On peut le voir dans ses paroles, mais aussi dans ses actes, dans son attitude face aux souffrances des hommes. Quand il voit un cœur injuste, il s'indigne. Quand il rencontre des personnes faibles, des personnes sans défense, il est rempli d'une profonde compassion. Il se soucie de ceux qui ont faim. Il se soucie de ceux qui sont malades dans leur corps. Ces miracles nous le montrent. Il guérit les malades, il donne à manger aux hommes. Et au-delà de ses actions, il y a cette tendresse dans le cœur de Jésus. Jésus n'est pas sans compassion pour les misères de ce monde que nous vivons. Les choses de tous les jours, les choses qui ne nous paraissent pas, entre guillemets, spirituelles. Jésus avait de la compassion aussi pour ces choses-là. Et il a traversé toute cette génération en touchant les cœurs des affligés, en restaurant ceux qui étaient mis à l'écart. Il s'est soucié d'eux aussi. Alors, si on prétend que Jésus ne s'intéresse qu'au spirituel et qu'il reste étranger aux misères humaines, il faut effacer beaucoup de passages de la Bible, en fait. Beaucoup de passages des évangiles. Et cette explication, donc, elle ne peut pas convenir avec la personne de Jésus, avec ce qu'il est. Alors, je reviens à la question, pourquoi Jésus-Christ refuse-t-il d'intervenir dans cette situation ? Vous savez, il y a deux manières de changer les cœurs, de toucher les hommes, d'appliquer quelque chose dans le cœur de l'homme. La première manière, c'est une manière extérieure. C'est avec des lois, c'est avec des commandements, c'est avec des décrets, c'est avec une législation, tout ce qui est du domaine de la loi, mais c'est extérieur. On va appliquer quelque chose à l'extérieur pour que l'homme change. La seconde, la seconde méthode que va suivre Jésus, c'est de s'intéresser au cœur d'abord. Il ne va pas venir amener une loi extérieure, Jésus va venir toucher les cœurs. Jésus-Christ est venu pour que les cœurs changent, et il est resté fidèle toujours à cette façon de faire. Cela prouve même sa divinité, parce que les lois ne changent pas les cœurs. Seul Dieu peut changer les cœurs. Et Jésus est venu, pas avec des nouvelles lois, mais avec des paroles pour changer les cœurs. Si Jésus avait pris position dans cette affaire, alors il est certain que tout le monde aurait déboulé pour lui, vers lui pour lui dire « Fais-moi justice dans cette affaire ». Il aurait dit « Est-il juste que les Juifs soient soumis aux Romains ? Est-il juste que les pharisiens dominent en Israël ? Est-il juste que la législation ne défende pas les pauvres ? Est-il juste qu'il y ait des esclaves ?» Il y avait plein de questions de société qui se posaient du temps de Jésus, vous savez. Pourtant, il a pas pris position sur ces choses-là ouvertement. Même on a essayé de lui tendre des pièges. Vous vous souvenez peut-être de ce passage où on lui dit « Est-il juste de payer la taxe aux Romains ?» Là aussi, on voulait lui tendre un piège. Parce que s'il disait « Oui, oh, c'est un collaborateur, il collabore avec les Romains. » S'il disait « Non », ils allaient vers les Romains, puis il dit « Lui, Jésus, veut lever une révolte contre vous. » Jésus l'a dit « Rendez ce qui était à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus, s'il avait répondu à cette demande de cet homme, il aurait dû trancher toutes les questions de société. Et qu'est-ce que ça aurait fait finalement ? Ça aurait mené à des révoltes, à la guerre, sans réellement changer les cœurs, parce que les cœurs n'auraient pas changé. Certains prennent Jésus pour un révolutionnaire. Ce n'est pas un révolutionnaire. Il n'a jamais soulevé les foules, il n'a jamais levé les riches contre les pauvres. Non, il n'a jamais pris ses disciples pour aller manifester, on n'est pas content. Il n'a jamais pris des positions politiques. Il ne s'est même pas prononcé sur l'esclavage, ça pourrait nous choquer aussi. Ce n'était pas ce que Jésus voulait faire. Et il aurait été facile de protester, de prêcher la révolte, comme beaucoup le faisaient du temps de Jésus. Il y avait des révoltes, il y en a qui annonçaient tout ça. Mais ce qui était prodigieux et divin dans la vie de Jésus, c'est qu'il a voulu répondre au mal par le bien. C'était d'avoir cette audace de croire qu'on peut vaincre le mal par le bien. C'était de miser uniquement sur la force de l'amour, de montrer ce qu'était l'amour de Dieu. Et Jésus, n'a jamais pris les armes, il n'a pas eu besoin d'armes, il n'a pas eu besoin de se faire violence. Et dans notre société actuelle, vous savez, il y a beaucoup de gens qui lèvent le poing, qui se révoltent contre cette société. Je voulais vous montrer un petit dessin, il est déjà assez vieux, d'Auderset, un dessinateur chrétien, vous l'avez peut-être déjà vu. Voilà, changeons cette société de trois petits points. Et on voit beaucoup de gens comme ça, en fait, dans notre société. Beaucoup de même partis politiques qui, sous couvert de l'injustice, va vouloir se faire violence pour appliquer une justice. Je vous mets la suite du dessin. Voilà, il y a deux qui lui fait dire. Oui, il y a peut-être plus urgent, effectivement. Il y a peut-être plus urgent. On peut effectivement s'indigner contre des choses dans notre société. Il y a beaucoup de choses qui vont mal. On peut révéler ces choses injustes, mais si on veut que notre société change, il faut déjà que les cœurs changent. Sans révolution dans les cœurs, il n'y a pas de changement. Il n'y aura pas de changement durable. Et nous, chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons accepté Jésus, c'est à nous de montrer ces cœurs. Pas ces cœurs qui veulent tout révolutionner, qui veulent couper des têtes, qui veulent mettre le président je ne sais où. Ce n'est pas notre rôle, ça. Nous, on montre Jésus-Christ. C'est une révolution profonde qui va se faire. Quand Jésus est venu, vous savez, le monde n'a plus été le même. Il est venu sans armes, sans armée, il n'a rien imposé du tout. Et pourtant, Jésus est l'homme qui a marqué le plus l'histoire sur cette terre. Après la venue de Jésus, tout ce qu'il a insufflé, tout ce qu'il a donné, est bien venu dans la société, les hôpitaux qui a créé les chrétiens, les orphelinats. L'abolition de l'esclavage, ça a mis du temps à venir, mais qui est à l'initiative ? Des chrétiens. Plus toutes les personnes qui ne sont peut-être pas chrétiennes, mais qui ont été influencées par le message de Jésus sans le savoir. Il y a eu un avant et un après Jésus. Et pourtant, Jésus est venu simplement. Vous rendez compte ? Un fils de charpentier dans une petite bourgade d'Israël. Il est venu, il a changé le monde. Et il a changé l'éternité de millions de personnes. Donc la méthode de Jésus, c'est d'ensemencer la vérité et l'amour dans les âmes pour que la société change de l'intérieur et pas de l'extérieur. Changer les cœurs avant de changer la société. Vaincre le mal par le bien, pas par la révolte. L'amour et la vérité, c'est la vraie révolution. Ce n'est pas celle qu'on fait avec les armes ou à coups d'aboiement à la télévision. Ce n'est pas ça qui va changer notre pays. Ce qui va changer notre pays, c'est des cœurs transformés, des cœurs changés. Alors, si on revient à notre texte, si Jésus donc, avait justement pris parti pour cet homme, qu'il avait fait une parfaite justice, en fait, le fond du problème de cet homme n'aurait pas été touché. L'homme serait reparti avec sa part d'héritage, super, il a son argent, mais toujours avec un très très gros problème dans son cœur. Et on peut discerner ce problème, en fait, par son attitude. Vous avez vu, on n'a pas lu beaucoup de lignes. Mais quand on voit l'attitude de cet homme, on se dit quand même, il doit avoir un problème. Pourquoi ? Parce que Jésus est en train de partager des choses profondes, des choses éternelles, des choses qui concernent l'âme, l'éternité, le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Et cet homme se pointe, lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi ? Son héritage. Son héritage, c'est ça, c'est son argent qui l'intéresse. Ces paroles si profondes que Jésus est en train de donner au peuple, ça lui passe au-dessus de la tête. Donc il y avait un grave problème chez cet homme. Bien que cet homme soit sans doute dans ses droits, il vivait réellement une injustice. Cette injustice avait pris toute la place dans son cœur. Si bien qu'il ne pouvait même plus écouter les paroles de Jésus. Cette injustice, en fait, le coupait des paroles de vie. Le coupait de son salut même. Il ne pouvait pas recevoir parce qu'il était omnubilé par l'injustice qu'il était en train de vivre. Et Jésus, lui, il va tout de suite mettre le doigt dessus. Il va lui dire, il va parler de quoi ? De l'avidité. Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Ensuite, Jésus va enseigner une parabole, la parabole du riche qui amasse des biens et qui se dit « voilà, je suis tranquille » et pourtant il va mourir le soir même. Donc, Jésus voulait permettre à cet homme bien plus que de toucher son héritage. Jésus voulait le bien de cet homme. Il voulait que cet homme soit sauvé pour l'éternité. Il voulait débarrasser cet homme de cette avidité dans son cœur pour l'argent. Et Dieu... Voilà, je vous remets un petit peu. Donc l'injustice avait pris toute la place dans son cœur. Jésus touche la racine, l'avidité. Dieu veut libérer notre cœur, pas juste réparer l'injustice. Vous savez, c'est une grande vérité dans la Bible. Dieu se soucie de notre injustice, des injustices qu'on a vécues. Mais ce qui l'intéresse d'abord, c'est notre cœur et comment on vit ces injustices. Est-ce que ça prend toute ma place ? Et je pense qu'on peut tous se reconnaître dans cet homme. Nous avons tous vécu des situations injustes dans notre vie. C'est clair, et Dieu les connaît, Dieu les sait, et Dieu va faire justice. Mais quand on n'est plus capable de penser ou de prier pour autre chose, il y a un problème. Quand on n'est plus capable d'écouter Dieu et que l'on pense juste au jour où Dieu nous fera justice, ou que moi-même, je me ferai justice, là, il y a un problème. Nous devons nous laisser toucher pour que Dieu nous libère de ce qui a pris sa place dans notre cœur. Vous savez, Dieu est venu pour donner la vraie liberté. Donc il nous libère de notre passé, il veut nous libérer des injustices qu'on a vécues, mais il veut aussi qu'on reste libre dans les futures injustices qu'on va vivre. C'est clair, il y en aura. C'est ça, Jésus, le vrai libérateur. Il ne veut plus que l'injustice, le péché d'autrui, vienne m'emprisonner. Et bien souvent, nous prions plus pour que Dieu nous fasse justice que pour la libération de notre cœur. Nous allons venir vers Dieu, « Oh Seigneur, fais-moi justice », et on va prier, et ça va durer parce que Dieu, il va dire, « Eh, il y a quelque chose qui doit être touché ». Peut-être comme cet homme, l'avidité, peut-être notre ego, parce qu'on n'est pas complètement mort à nous-mêmes, donc il y a encore une sorte de révolte contre l'autre, même une révolte contre Dieu, et Dieu veut toucher ça pour nous rendre complètement libres. Comme je l'ai dit, nous vivrons toujours des injustices. Jésus a dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Je vous rappelle, on est dans un monde déchu. On est dans un monde déchu pour l'instant. Et si on croit qu'un jour, plus personne va nous faire du mal, nous juger injustement, on se trompe. Jésus ne nous a pas promis ça. Hein ? Il ne nous a pas promis ça du tout. Il nous a dit qu'il sera toujours avec nous. Il nous a dit qu'il nous fera justice. Il a dit qu'il est venu nous libérer de la condamnation du mal, de tout ce qui pouvait être contre nous. Et quand nous sommes dans l'injustice, je pense qu'il est intéressant de se mettre devant Dieu et que Dieu révèle à quoi on peut être attaché encore. Pourquoi cette injustice que je vis prend toute ma vie, prend toutes mes pensées, prend tout ce que je suis. Qu'est-ce qui n'a pas été touché ? Donc l'injustice, elle va permettre de révéler à quoi notre cœur est attaché. Vous savez, il y a un verset assez troublant dans la Bible qui dit aussi « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça aussi, c'est dur, hein ? C'est dur, mais c'est la vérité. Si on vit les choses avec Dieu, alors Dieu va se servir des choses qu'on a pensées en mal, que le diable a pensées en mal, mais que lui avait de toute éternité déjà pensées en bien pour nous. Parce que nous le vivons avec lui. Dans chacune de ces injustices, nous pouvons apprendre à ressembler à Christ. Toute épreuve, toute tentation est une occasion de faire le bien, de ressembler à Christ, à répondre au mal par le bien. Et ces situations injustes, si on les vit avec Dieu, pourront nous faire avancer vers la vraie liberté. Amen. Donc l'injustice ne doit pas nous éloigner de celui qui nous a fait justice. L'injustice ne doit jamais nous éloigner de Dieu. Au contraire, elle doit nous rapprocher de lui avec un cœur ouvert, un cœur enseignable, un cœur qui est prêt à apprendre de ce que nous sommes en train de vivre sur le coup. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Souvent, on va peut-être aller demander la prière, on va, voilà, je vis telle situation. C'est bien de demander la prière, et on est là pour ça, pour prier pour vous. Mais aussi Dieu nous appelle à nous mettre chacun de nous devant lui et dire, Seigneur, dans ce que je vis, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Qu'est-ce que tu veux faire de bon en moi ? Je vois cette chose en mal, mais toi tu l'as prévue en bien pour moi. Comment tu vas faire ? Qu'est-ce que tu veux toucher ? Et ouvrir son cœur à ce que Dieu va nous dire. Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves du mal que l'on nous a fait. Vous savez, il y a des personnes, on leur a fait du mal, elles en restent esclaves toute leur vie. Toute leur vie. C'est sûr qu'il y a toujours des cicatrices, il y a toujours des blessures, mais ce n'est pas ce qui va vraiment conduire, diriger ma vie et mes pensées et m'empêcher d'être dans la joie de Christ. Dieu... Le mal que l'on m'a fait donc, ne doit pas me conduire aussi au mal. Parce que souvent, on voit dans cette société, on peut réagir comme ça. Oui, lui m'a fait du mal, donc je peux rendre le mal aussi. Ce n'est pas comme ça que marche l'évangile, en fait. Pas du tout comme ça. Il y a des gens qui disent, il n'y a pas de mal à voler aux riches, il n'y a pas de mal à voler aux voleurs. Ah si ! Puisque tu voles, tu te mets au même niveau que lui. Hein, on n'est pas des Robin des Bois. Robin des Bois, je pense qu'il avait une mauvaise philosophie, hein, sous ses airs. C'est pas ça que Jésus veut. On répond au mal par le bien, comme Jésus nous l'a montré. Donc Dieu fait plus que nous faire justice. Il nous apprend à vivre en paix quand nous sommes victimes d'injustice. C'est bien plus encore. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, il va nous faire justice. Mais il veut nous apprendre à vivre dans la paix, même quand il y a de l'injustice. Dans la Bible, voilà, je vous invite à lire la vie de David, par exemple. David qui a tout fait pour servir Saül, pour l'honorer, le roi Saül. Et le roi Saül lui a mené la vie dure, il a essayé de le tuer, il l'a poursuivi. Et à une occasion, David a eu l'occasion de le tuer, et il ne l'a pas fait. Il a toujours respecté Saül, malgré tout le mal qu'il lui faisait. Il n'a jamais eu cet esprit de vengeance contre lui. Il a eu des moments difficiles, on le voit dans les psaumes, quand il criait à Dieu, il s'est toujours référé à Dieu. Il n'a pas voulu succomber à répondre à l'injustice par l'injustice devant Dieu. Si vous lisez la vie de Joseph, c'est la même chose aussi, hein, Joseph. Joseph, il a été quand même mis dans un puits par ses frères, vendu en esclave, accusé injustement avec une femme, là. Il a été mis en prison. Il a accepté tout ça. Il est passé au travers de tout ça. Pourquoi ? Parce que lui, il savait que Dieu régnait. Dieu est là. Et il avait vu, Dieu lui avait déjà donné des paroles à l'avance, et il savait. Donc il ne s'est jamais voulu se venger, se faire justice. Il a laissé Dieu faire. Et Dieu a agi souverainement. Ça, ce sont des exemples de la Bible. Mais dans notre vie quotidienne, il y a plein d'exemples comme ça. Je voudrais reprendre un exemple d'un drame qui s'est passé en 2018 au Texas. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est une dame, une policière, qui rentrait chez elle. Alors, on ne sait pas si elle était un petit peu alcoolisée ou quoi. Et elle est rentrée chez elle. Elle a vu une personne dans son canapé. Elle a pris peur. Et elle a tué cette personne. Et il s'est avéré, en fait, qu'elle s'était trompée d'étage. Elle n'était pas chez elle. Donc, elle a tué un jeune homme d'une famille chrétienne. Un jeune homme qui était tranquille chez lui, qui n'avait rien demandé. Elle a tué. Puis, de plus, la dame était blanche et le jeune était noir. Vous vous rendez compte le climat. Donc, cette dame, elle est passée au tribunal, bien sûr. Et là, au tribunal, il y a le frère de ce jeune homme, un jeune homme qui a 18 ans, qui va prendre la parole, qui va dire « Je vous pardonne ». Et je sais que si vous demandez à Dieu, il vous pardonnera aussi. Il va dire, je veux le meilleur pour vous, parce que c'est exactement ce que voudrait mon frère. Et puis après avoir demandé la permission à la juge, le jeune homme de 18 ans a longuement enlacé cette dame dans ses bras. Il y a la vidéo sur Internet, la photo. Voilà ce jeune homme qui prend la personne qui a tué son frère dans ses bras et qui l'a béni et qui lui souhaite du bien. La maman, elle a dit sur ce jeune homme, Brandt a voulu laver son cœur par rapport à Amber. Il a lavé son cœur. Il n'a pas laissé cette injustice dans son cœur. Il l'a traité avec Dieu. Cet homme, il est comme nous, hein, il est de chair et de sang. Il est né de nouveau, il a Christ en lui. Il n'a pas désiré se laisser emprisonné par ce drame, par cette souffrance. Et il a fait ce qu'il y avait de plus beau. Il a pris cette dame dans ses bras. Elle a pris 10 ans de prison, la dame. C'est une vie brisée aussi pour cette dame. Mais il l'a bénie. Il l'a bénie. Et là, le diable ne peut rien contre ça. Vous savez, le diable, son plan, c'est de multiplier les injustices. C'est un cercle vicieux après. Voilà, l'autre va se venger. C'est comme ça que commencent les vendettas. C'est comme ça que commencent les guerres sans fin. Parce qu'on veut se faire justice. Le frère a renoncé à se faire justice. Il a dit, je te bénis. Et il l'a pris dans ses bras. Quand on sait en plus tout ce qui s'est passé dans ce pays, entre les différences entre noirs et blancs, la ségrégation, tout l'arriéré. Vous imaginez la puissance. Et Dieu va se servir de ça. Il a touché beaucoup de monde à travers cela. Il a sauvé beaucoup de personnes et repris beaucoup de personnes. Ça fait le tour des États-Unis. Donc, avec Christ, en Dieu, on a cette capacité de répondre à l'injustice par l'amour et par le bien. En priant pour nos ennemis, donc, en fait, quand Jésus nous demande de prier pour nos ennemis, on ne bénit pas seulement nos ennemis, on se bénit nous-mêmes. On se fait du bien à nous-mêmes parce qu'on empêche le mal de venir. Hein ? Des fois, c'est compliqué, mais on se croit un petit peu hypocrite. Ah, je vais prier pour un tel, mais je ne l'aime pas. Ouvre ta bouche et commence à prier. Obéis simplement. N'attends pas d'avoir le sentiment d'aimer la personne. Ça n'arrivera pas. Commence à prier pour la personne qui te fait du mal. Simplement. Saint-Esprit va faire son œuvre dans ton cœur. Il va mettre sa compassion, va mettre son amour. Tu vas pouvoir voir cette personne comme Dieu le voit aussi. Comme cette créature qui a besoin aussi de salut et d'être sauvée. Alors, je vais terminer simplement en n'oubliant pas que Jésus, lui, il a vécu la plus grande injustice. Lui seul, le juste sur cette terre, il a payé pour nous qui sommes injustes. Parce que ce matin, on a parlé des injustices qui nous touchaient, mais on doit reconnaître que certainement, nous aussi, et plus d'une fois, on a été injustes avec des personnes. On a fait du mal aussi autour de nous. Et malheureusement, on continuera à en faire parce qu'on a besoin chaque jour d'avancer avec Dieu. Reconnaissons aussi nos injustices. Et Jésus, lui, est venu justement pour payer pour nous injustes. Je vous ai juste mis ce verset. 1 Pierre 3,18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. L'injustice que tu as vécue, les malheurs que tu as vécus, ne vont pas justifier tous tes actes. Tu as besoin aussi, toi, d'être justifié par Jésus, le juste qui a payé pour toi. Lui seul pouvait nous justifier parce que lui seul était juste. Lui n'avait pas à payer ses péchés, il n'en avait pas. Il a donc pris les nôtres pour qu'aujourd'hui nous soyons rendus justes par sa grâce. Si nous sommes en Christ, alors nous ne sommes plus sous la condamnation due à notre injustice, mais nous sommes également gardés de l'injustice que nous pouvons subir. Alors je vous ai mis un verset. Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est la cuirasse de la justice pour un soldat? Qu'est-ce qu'elle était censée faire? La cuirasse, elle protège tous les organes vitaux du soldat, hein, les entrailles et surtout le cœur. Le cœur. La justice de Dieu est là pour garder nos cœurs. La Bible nous dit aussi, Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Amen. Donc, effectivement, il y aura des flèches qui vont venir, des flèches de condamnation de l'ennemi qui va te dire « Tu es coupable, tu n'es plus sous la grâce de Dieu, tu as fait ceci, tu as fait cela, souviens-toi. » La cuirasse de la justice. Jésus-Christ est ma justice, c'est lui qui m'a fait justice. Et je reçois sa grâce. Et je ne suis plus sous la culpabilité et la condamnation. Je suis dans cette foi en sa grâce, dans la repentance. Je veux avancer avec Dieu. Et j'ai besoin de sa grâce chaque jour. La cuirasse de la justice. Et la cuirasse de la justice me protège aussi des iniquités, des injustices que je vais subir dans ce monde. Parce que Dieu est ma justice aussi. Ça veut dire aussi qu'il me fera justice. Je n'ai pas à me venger moi-même. Il est dit dans la parole, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand on se fait justice soi-même, on ne fait pas la volonté de Dieu. Donc la cuirasse de la justice, il faut la revêtir. Dieu est ma justice. Il m'a justifié. Il m'a donné sa vie, il a payé pour moi, pour qu'aujourd'hui je sois au milieu des justes. Et je ne veux plus me laisser enfermer par le péché des autres, parce que le mal qu'on m'a fait, je ne veux plus que ça vienne me bloquer. Merci Seigneur. L'injustice, donc, ne doit pas nous éloigner de Dieu, mais nous amener à lui ressembler. Amen. Voilà, j'ai terminé, on va se lever. Est-ce qu'on peut prendre un temps de prière sur ce terrain de l'injustice? Chacun puisse se mettre devant Dieu. Chacun de vous, je sais, vous vivez des choses difficiles, des injustices peut-être dans votre travail, dans votre famille, et c'est compliqué. Mais Dieu vous fera justice. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions, nous te bénissons, parce que tu dis dans ta parole que tout concourt à notre bien. Tout ce que tu fais, Seigneur, tout ce que tu permets dans nos vies, même, Seigneur, ce qui vient de l'ennemi, tu le fais concourir à notre bien, Seigneur. Je te prie ce matin de bénir mes frères et sœurs, de les libérer, Seigneur, de toute injustice qu'ils ont pu vivre, de leur montrer ce qui les attache encore à ce mal, Seigneur. Vraiment, viens sonder nos cœurs, Seigneur. Nous sommes devant toi et nous te prions de toucher chacun de nous pour que nous soyons vraiment dans la vraie liberté que tu nous as donnée à la croix. Merci, Seigneur. Nous voulons prier aussi ce matin pour toutes les personnes qui vivent l'injustice dans ce monde, notamment nos frères chrétiens, qui sont dans des pays où ils sont maltraités, où ils sont jugés, où ils sont emprisonnés, injustement. Seigneur, nous te prions encore de leur faire grâce, de les visiter puissamment, de les tenir dans ta main, de les consoler, de les encourager. Merci Seigneur pour nos frères et sœurs chrétiens qui tiennent fidèlement dans la foi face à l'injustice et qui sont des modèles pour nous, Seigneur. Merci de bénir ces pays et que leur témoignage de ces cœurs changés puisse toucher vraiment les pays où ils sont, la population, Seigneur. Continue de faire avancer l'Évangile dans ces pays. Merci Seigneur pour ta souveraineté et ta gloire. Merci pour cette grande délivrance que tu opères dans nos vies. Amen.